Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Dans cette émission Au fil des pages, ce n'est pas d'un livre que nous allons parler, mais de toute une collection. Une collection prestigieuse qui présente une première particularité exceptionnelle, c'est qu'elle existe depuis plus de 50 ans, ce qui est tout de même rare. Une deuxième particularité, c'est qu'elle est consacrée à des auteurs un peu ardus qui appartiennent néanmoins au patrimoine culturel de l'humanité, rien de moins. Et une troisième particularité, c'est qu'elle fête en cet automne 2006 la parution de son 500e volume, ce qui constitue un exploit, vous allez en juger. Alors je ne vous fais pas languir plus longtemps, nous évoquons aujourd'hui la collection Sources chrétiennes, publiée par l'Institut des Sources chrétiennes et par les éditions du CERF. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir de recevoir dans le studio de Canal Academy Jean-Noël Guinaud, qui en est le directeur. Monsieur Guinaud, bonjour.
Bonjour madame et merci.
Je le disais, vous dirigez l'Institut des sources chrétiennes et la collection qui porte ce nom, et vous êtes directeur de recherche au CNRS. Quel est votre champ de recherche ?
Mon champ de recherche personnel est l'exégèse grecque, disons surtout au 5e siècle avec Théodore et Cyre, et donc en amont avec Origène et les Antiochiens du 4e siècle.
Alors on a tout de suite compris de quoi nous allons parler, de ces sources chrétiennes. D'où vient ce titre « sources chrétiennes » ? Quelles sources parle-t-on finalement ?
Alors, ce sont essentiellement les sources du christianisme. Pourquoi le titre de source ? Il a aussi une histoire. Il aurait pu être le titre source, tout simplement. Mais lorsque il s'est agi de trouver un titre, ce titre était déjà retenu par une revue de la Bibliothèque nationale. C'est pourquoi on a ajouté tout simplement chrétienne pour bien signifier de quelle source il s'agissait.
Alors, comment est née cette collection Sources chrétiennes ?
Alors, elle a toute une histoire et une préhistoire, pourrait-on dire, puisque elle est née dans les années 1942-1943, avec la parution du premier volume, Grégoire de Nice, La vie de Moïse. Mais l'idée est conçue bien antérieurement. Il y avait du reste eu déjà des essais en France de collections de textes patristiques, puisque c'est ainsi qu'on désigne les écrits des pères, avec la collection des pères Hippolyte, Émer et Leger. Et puis cette collection s'était interrompue avec la guerre de 14, qui avait été évidemment un frein à cette collection, qui est véritablement qui a servi de modèle à Sources chrétiennes. Alors, je dis préhistoire parce que l'idée a fait son chemin et le véritable fondateur, celui dont le nom n'apparaît nulle part parce que sa modestie l'a voulu ainsi, était le père Victor Fontoinon, qui a enseigné d'abord au collège de Montgré, près de Lyon, à Villefranche, et qui est ensuite venu dans les années 30 au Scholastica des Jésuites à Fourvière, à la faculté de théologie des Jésuites de Fourvière. C'était un brillant helléniste, auteur d'un vocabulaire grec qu'on utilise encore dans les lycées et même à l'université. Et il a donné une impulsion auprès des jeunes jésuites d'alors qui étaient rassemblés au Scholastica de Fourvière, parmi lesquels Montdésert, qu'il avait du reste connu au collège de Montgré. Et il a lancé ainsi toute une série de pères jésuites à travailler sur des œuvres de pères grecs.
Alors, parmi ces gens qui ont travaillé, mais si vous dites que le premier volume est sorti en 1942, on était en pleine occupation.
On était en pleine occupation.
Dans une période très sombre de l'histoire de France. Alors, c'est justement, je crois, le cardinal, enfin, qui deviendra cardinal plus tard, Henri de Lubac, que nous aimons beaucoup à Canal Académie, puisque nous lui avons consacré une émission. Henri de Lubac, qui était donc membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et aussi le futur cardinal Jean Danielou, qui lui était à l'Académie française, ou sera à l'Académie française plus tard. Tous deux ont lancé, comme ça, en pleine guerre, un ou deux ouvrages des pères grecs.
Voilà, ça s'est préparé évidemment pour qu'ils sortent dans les années fin 42. L'imprimature du premier volume date de 1941. Et on a une carte interzone, puisque Lyon était encore en zone dite libre à cette époque, et c'est pourquoi les éditions du Cerf étaient repliées à Lyon sous le nom des éditions de l'Abeille. Et dès le début, il y a eu une collaboration très étroite entre les pères dominicains du Cerf et les pères jésuites. Et donc le premier volume paraît, c'est Jean Danielou qui en est l'auteur, ce Grégoire de Nice, Vie de Moïse, qui va paraître difficilement étant donné le contexte. Il fallait passer la censure allemande, la censure vichysoise, il fallait trouver du papier. On n'en a pas trouvé suffisamment pour imprimer tout le traité et on n'en a pas trouvé suffisamment pour mettre le texte grec qui était préparé par Jean Danielou.
Ah donc on n'a pas mis le texte grec alors.
On n'a pas mis le texte grec et on n'a pas mis tout le traité. On a mis que la deuxième partie du traité, c'est un choix je pense raisonné de la part des fondateurs. La deuxième partie du traité de la vie de Moïse qui n'est plus l'histoire comme le traité est divisé en deux parties, une historia, donc lecture de la vie de Moïse au sens historique, et puis une lecture, comme Grégoire de Nice l'appelle, selon la contemplation, c'est-à-dire une méditation spirituelle sur la vie de Moïse, la dimension spirituelle de la vie de Moïse. Voilà ce qu'on a choisi de publier, par manque de papier, mais il y avait un choix qui était raisonné.
Donc la collection Sources chrétiennes naît là, comme ça, dans ces conditions, à Lyon en 1942. Alors c'est tout de même, vous l'avez souligné, intéressant de voir que ce sont les pères jésuites qui s'en occupent, mais que cette collection Sources chrétiennes, elle est publiée par les éditions du Cerf, qui sont la maison d'édition des pères dominicains, ce qui veut dire qu'entre la Société de Jésus et l'Ordre des Prêcheurs, les choses ne vont pas si mal, finalement.
Voilà, parce que ça tient souvent de la plaisanterie que l'on fait, mais c'est vrai que cet attelage a bien fonctionné depuis le début. Il faut bien dire que les pères dominicains du Cerf ont pris un risque de lancer, surtout à cette époque-là, une collection de ce type.
Et alors, cette collection, maintenant, elle bénéficie du soutien du CNRS, dont vous êtes membre.
Alors, elle bénéficie du soutien du CNRS, oui, depuis un certain nombre d'années déjà. Je crois qu'il y a une grosse étape qui a été marquée avec le 50e volume de la collection. Bon, il y avait eu auparavant le volume 32, ou je ne sais plus le numéro, qui était celui qu'avait donné Henri-René Maroux, l'Épître à Diognète, qui avait également marqué une étape importante d'ouverture notamment sur le monde universitaire et d'intérêt donné au monde universitaire pour cette littérature qu'on appelait tardive, voire décadente à l'époque. Et donc avec le numéro 50, sont 8 catéchèses inédites de Jean Chrysostome, retrouvées dans un manuscrit du Mont Athos, par le père Antoine Wenger, qui sera plus tard directeur du journal La Croix, et qui a donné cette édition très scientifique, et qui a fait date, et qui a valu le soutien du CNRS apporté à l'édition. Et je crois que ça a été un point de départ pour l'aide qu'a apporté ensuite le CNRS, qui s'est concrétisée par des postes individuel, si je puis dire, puisque le père Mondésert lui-même a été recruté au CNRS et d'autres parmi ses collaborateurs ensuite. Et puis plus tard interviendra la création d'une équipe CNRS rattachée à l'Université Lumière Lyon 2, donc l'Université d'État, et à laquelle donc nous appartenons par le biais de la Fédération de Recherche de la Maison de l'Orient.
C'est une manière de dire que cette collection Sources chrétiennes dont nous parlons avec vous, Jean-Noël Guinaud, c'est un travail scientifique tout de même. Il y a bien sûr aussi, on va en parler, un côté spirituel, mais il y a tout de même un travail scientifique.
Oui, et j'allais dire que le côté scientifique de la collection s'est accentué justement sous le directorat, si je puis dire, de Claude Mondésert. Au début, on avait bien prévu de préparer des textes originaux, textes grecs, puis textes latins, de manière critique, mais on s'interrogeait sur la nécessité qu'il y avait à publier, malgré tout, le texte original. Il n'y avait pas qu'une question de papier, comme j'ai dit tout à l'heure. On se demandait s'il fallait généraliser au moins ce type de publication. Et très vite, il est apparu que l'aspect scientifique était important, d'abord pour obtenir la reconnaissance de la communauté scientifique nationale puis internationale, et aussi parce que le recours au texte original paraît fondamental en ce domaine qui touche bien sûr la théologie, la philosophie, la spiritualité.
Alors justement, vous le soulignez, cette collection Sources chrétiennes, on la considère comme l'une des plus importantes collections mondiales de textes patristiques, c'est-à-dire de textes des pères de l'Église. Pourquoi vouloir la mettre à la portée, j'allais dire, du grand public ou de tout un chacun, alors que peut-être qu'il n'y a que des érudits qui peuvent avoir accès à ces textes ?
Oui, c'est une remarque qu'on nous fait souvent. Je crois que le choix de faire justement une collection de textes patristiques qui soit accessible était un choix voulu par les fondateurs, qui ne dissimulait pas qu'ils devaient rencontrer un public de lecteurs un peu exigeant. C'est certain. Mais les textes sont rendus accessibles, notamment par une introduction qui situe l'auteur dans son milieu historique, dans le milieu culturel, enfin tout cet aspect très important pour voir que ces textes ne sont pas tombés du ciel et qu'ils correspondent à des préoccupations qui sont souvent des préoccupations immédiates, celles d'un pasteur, celles d'un igoumène de monastère, enfin, etc. Les situations sont ordinairement des situations concrètes, ce ne sont pas des réflexions de théologiens ou de théoriciens en chambre. Ouais. Et alors, donc, une introduction et puis surtout une traduction française et des notes. Et c'est ce qui distingue, je crois, la collection Sources chrétiennes, ou ce qui l'a distinguée, parce qu'aujourd'hui, elle a fait des émules, mais qui l'a distinguée des grandes collections de textes patristiques allemandes ou autrichiennes, le Corpus de Berlin, le Corpus de Vienne, plus tard le Corpus Christianorum, où on donne le texte latin ou le texte grec à pleine page, sans aucune traduction. Sans autre introduction oui, là, qu'une introduction sur la tradition manuscrite.
Là, il faut vraiment être un érudit
voilà,
ou un grand connaisseur. Ce qui n'est
pas le cas pour, pour un livre
tenez,
de Sources chrétiennes.
En tant que directeur de cette collection, vous tenez à maintenir cette traduction française.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, du reste, c'est une obligation, étant donné que les gens qui sont capables de lire un texte en latin, en grec ou en syriaque se font de moins en moins nombreux. Et puis, l'exercice de la traduction qui est une spécialité au fond de l'université française est essentielle pour comprendre un texte. On ne comprend pas un texte véritablement tant qu'on ne l'a pas traduit.
Avec Jean-Noël Guinaud, directeur de la collection Sources chrétiennes, nous parlons donc de cette collection et des pères de l'Église. Nous allons marquer une courte pause, nous nous retrouvons dans un instant. L'espace est lancé sur le site de Canal Académie, l'espace Apprendre, un espace d'écoute active pour vous, professeurs et enseignants, élèves et étudiants, avec des suggestions d'activités pédagogiques à partir d'extraits d'émissions. Un espace d'auto-formation à distance, ouvert à tous, téléchargeable facilement et gratuitement avec l'espace Apprendre de Canal Académie, établi en partenariat avec le Cavilab. Vous allez découvrir le plaisir d'apprendre. Retour dans le studio de Canal Académie où j'ai le plaisir de recevoir Jean-Noël Guinaud, directeur de la collection Sources chrétiennes qui est publiée par l'Institut des Sources chrétiennes et par les éditions du CERF. Un mot sur cet institut dont nous n'avons pas encore parlé.
Alors, cet institut est l'émanation, là aussi, d'une évolution historique. Au départ, il y a eu l'idée de la collection. Ensuite, il y a eu une reconnaissance du CNRS, un soutien à l'édition, oui. Puis un soutien apporté en poste de chercheur. Puis, le Père Mondésert a fondé une association d'amis de sources chrétiennes, association loi 1901, reconnue donc d'utilité.
Qui existe encore ?
Ah oui, bien sûr.
On peut adhérer,
on
alors.
On peut adhérer, oui, oui, pour la somme, je crois, de 22 euros.
On donnera toutes les indications.
Voilà. Et c'est cette association qui abrite dans ce que nous appelons l'Institut, l'équipe CNRS et puis un personnel associatif. Le gros étant fait par l'équipe CNRS. Mais s'il n'y avait pas l'institut, c'est-à-dire l'association, eh bien, l'équipe CNRS
serait pas où aller.
Serait, voilà. Et c'est un peu un problème que nous essayons de résoudre depuis déjà quelques années.
Alors, Jean-Noël Guinaud, c'est père de l'Église. Je dois dire qu'on s'y perd un peu, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots. Aidez-nous à y voir un petit peu plus clair et à nous repérer. Alors, les pères, d'abord, pourquoi on les appelle pères ?
Alors, cette appellation est relativement tardive. Disons que l'époque, au 3e siècle, 4e siècle, on commence à évoquer ces anciens comme des autorités. Et l'argument d'autorité en disant un tel a dit, Athanase a dit, enfin bon, Athanase sera pour plus tard, on est au 4e siècle avec Athanase. Mais on a donc l'idée qu'il y a une tradition de l'Église. Bon, il y a bien sûr au départ l'Écriture et puis ceux qui ont commenté l'Écriture, qui ont dit quelque chose sur Dieu. Cela, on a donné ce titre de père, parce que la tradition ancienne de l'ancien est toujours importante dans l'Antiquité. On n'aime pas que ce soit l'Antiquité païenne ou l'Antiquité tardive chrétienne. On se méfie toujours un peu de ce qu'on appelle la nouveauté. Donc il faut avoir une ancienneté.
Alors on s'y perd un peu dans les pères de l'Église parce qu'il y a des pères grecs, il y a des pères orientaux, il y a des pères latins. Alors dans les noms, on mélange un petit peu tout, il faut quand même le dire pour nous qui ne sommes pas érudits de cette question. Comment s'y repère-t-on ? Est-ce par les dates ? Est-ce par la langue dans laquelle ils ont écrit ? Le grec, le syriaque, l'arménien, enfin... Quel est le repère pour un peu s'y retrouver ?
Tous ces repères interviennent naturellement. Le critère de la langue est évidemment fondamental, mais ce n'est pas le seul. Le critère chronologique est grandement important, n'est-ce pas ? D'ailleurs, les premiers auteurs chrétiens sont assez peu nombreux au IIe siècle. Enfin, ceux que nous connaissons, au moins, dont on a conservé les écrits. L'âge d'or de la patristique, ça sera le IVe siècle, hein, en Orient, enfin, en langue grecque ou syriaque, et en langue latine, n'est-ce pas ? Donc c'est là qu'il y a une grande floraison, parce qu'on intervient après la paix de l'Église, après 313, l'édit de Constantin, n'est-ce pas ? Donc l'Église, à ce moment-là, je ne dis pas pignon sur rue, mais elle est visible. Elle est visible et elle est plus tranquille, même s'il y a des divisions internes. Alors, le repère chronologique est fondamental. Bon, ça commence, on a les pères avec Tertullien, par exemple, ou Irénée. On est au IIe siècle après Jésus-Christ, bien sûr. Et ensuite, au IIIe siècle, dominé par quelqu'un chez les Grecs comme Origène, qui est tout de même un des plus grands exégètes, avec Augustin du côté occidental un siècle plus tard. Hein. Voilà. Alors, pour s'y repérer, ben oui, la chronologie, la langue, parce que cette langue, c'est important. Ces langues sont quelque chose qu'il faut bien souligner, car cela traduit le désir qu'ont eu ces gens-là de transmettre le message chrétien dans la langue que les fidèles comprenaient. Il y a une espèce d'inculturation, comme on dit aujourd'hui, qui s'est faite dans la langue grecque, qui était la koiné, qui était parlée non seulement dans le monde oriental grec, mais aussi à Rome. Et les premiers auteurs chrétiens latins, si je puis dire, écrivaient en grec. Irénée de Lyon, pour ne pas le nommer, écrivait en grec. Et il dit même, dans son grand traité des hérésies, bon, ça procède aussi d'une manière de parler habituelle, fausse modestie peut-être, disant « moi qui suis au milieu des barbares, là, au milieu des celtes, j'ai un peu oublié mon grec, alors n'attendez pas de moi que je fasse de très belles phrases bon. ». Mais, voyez-vous, son œuvre ne nous est pas parvenue en grec. On a conservé un petit fragment de papyrus, presque contemporain du traité contre les hérésies, mais l'essentiel de l'œuvre nous est parvenu dans une traduction latine, anonyme, mais ancienne. Voilà, alors par quelle voie ? On a aussi d'autres fragments grecs, parce que ces textes ont circulé, mais attestés plus tardivement par d'autres auteurs qui citeront de l'Irénée. Mais qu'ils le citent en grec, parce qu'eux disposaient encore d'un exemplaire grec, ce que nous n'avons plus.
Dans la collection Sources chrétiennes, Jean-Noël Guinaud, vous avez 500 volumes, puisqu'on fête maintenant la sortie du 500e volume. Est-ce qu'on peut dénombrer les pères grecs? Parce que ça commence évidemment au début du christianisme, mais ça s'arrête quand? Parce qu'il y a des textes du Moyen-Âge dans... Alors oui. Évidemment, est-ce que ce sont les pères de l'Église, au Moyen-Âge, voilà, c'est difficile.
Alors, c'est très difficile d'établir des frontières, et surtout des frontières étanches. Il y a des frontières traditionnelles, institutionnelles presque, pourrais-je dire. Alors on arrête la patristique grecque, les pères grecs, si je puis dire, pour l'Orient avec Jean Damascène, au 7e siècle. Voilà. Et puis pour l'Occident, ben, on s'arrête avec Isidore de Séville. Ouais. Voilà, alors on est toujours dans les mêmes eaux, 7e, 8e siècle, bon, c'est un peu mouvant, mais enfin on dit encore là, c'est la fin de l'époque patristique. C'est un peu artificiel. Et il est vrai que ces frontières sont un peu dépassées, de même qu'on a quelquefois très abusivement voulu couper la tradition grecque avec ce qui est avant Jésus-Christ et puis après Jésus-Christ. Et en ce sens, l'université française, jusqu'à Henri René Maroux, a vécu, et malheureusement ça continue un petit peu quelquefois, a vécu sur cette espèce de coupure radicale qui faisait qu'avant c'était des classiques, si je puis dire, et puis après c'est des décadents. Et alors c'est pourquoi on a parlé, aujourd'hui on ne dit plus, on n'ose plus dire décadent, on dit antiquité tardive. Et alors quand on se mouille, on dit antiquité tardive chrétienne, lorsqu'il s'agit de chrétiens. Mais il peut s'agir aussi d'écrivains juifs par exemple, n'est-ce pas, avec Flavius Joseph, c'est antiquité tardive également. Alors voilà un petit peu ces frontières. Si je prenais le catalogue des premiers volumes parus qui ont tous été... Parce que, ainsi, autour du père Fontoinon, je le disais, s'était rassemblé un certain nombre d'hellénistes. Il a fallu attendre le volume 19 pour qu'apparaisse un auteur latin avec Hilaire de Poitiers. Mais c'est un grand auteur. Et tous les autres sont des auteurs grecs. Mais on va, effectivement, des tout premiers siècles jusqu'au 14e siècle, avec Nicolas Cabasillas, etc. Donc, mais parce qu'il n'y a pas non plus, je crois, du côté grec, de véritable interruption de la lecture des pères grecs. Alors, ils lisent moins les latins, ça c'est évident. Mais voilà. Et du côté latin, c'est un peu la même chose, sauf que on arrête, disons, avec Grégoire le Grand, pire avec la Renaissance carolingienne. Mais on a effectivement dans la collection toute une partie qui est une continuation médiévale occidentale, c'est-à-dire en latin. Cela a commencé vers les années 1960 à peu près, je crois, à la demande justement des abbés cisterciens qui ont souhaité qu'on introduise cette continuation. Effectivement, ce sont surtout des auteurs monastiques, auteurs cisterciens, victoriens, etc. Alors, le critère que nous avons adopté, parce que le Moyen-Âge, c'est quelque chose vaste, d'immense aussi, et qu'on ne peut pas tout faire, et puis on ne peut pas trop dévier par rapport à l'optique voulue par les fondateurs, nous avons adopté comme critère, frontière infranchissable, l'apparition de la scolastique.
Bon,
voilà.
Ça fait quelle époque ?
Ah ben, on est, vous voyez, avec Abélard, quoi. On est. Comment on publie les œuvres complètes ? Parce qu'on nous l'a demandé aussi. C'est étonnant que Bernard Clairvaux ne soit pas publié en œuvre complète en France, même. Eh bien, on publie les œuvres de Bernard Clairvaux. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas quelques œuvres de Bernard Clairvaux qui tendent précisément vers une forme de scolastique. Mais. C'est plutôt l'idée que ces auteurs-là se sont nourris de la pensée des pères, y compris des pères grecs, par des voies quelquefois un peu détournées, c'est-à-dire en passant par l'Irlande, etc., et en traduction le plus souvent. Mais ils lisent la Bible à la manière des pères. Et c'est ça le critère, n'est-ce pas, qui fait qu'on dit oui
unité,
pour les uns,
voilà,
non pour les
non
autres.
Pour les autres. Enfin, voilà. Justement, vous disiez qu'on retrouvait quelquefois les petits fragments. Je suppose qu'il y a une difficulté d'abord à les trouver, à les découvrir. Est-ce qu'on en découvre encore aujourd'hui, des pères, est-ce qu'il y a des trouvailles? Et puis, comment ça se présente si on n'a pas la totalité des fragments? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille sur ça?
Alors, bon, vous posez un problème qui est très complexe, c'est celui de la recherche des manuscrits. Il est bien évident que les manuscrits très anciens, contemporains des auteurs, n'est pas, nous ne les avons pas. Et nous avons quelquefois des manuscrits très anciens, disons. Et c'est surtout dans le domaine latin. Dans le domaine grec, ordinairement, les manuscrits sont plus récents. Autour de 10e, 11e, 12e, 13e, etc. Quelquefois, ils sont très abondants, d'autres fois, ils sont uniques. Et chaque fois, ça pose des problèmes différents pour l'édition. Maintenant, il arrive que pour certains textes, nous ayons des papyrus. Alors là, on est à une date beaucoup plus haute. Et je parlais tout à l'heure d'un petit fragment d'un papyrus d'Irénée qui est tout petit, mais qui a pu attester de l'Irénée en grec à une époque presque contemporaine de l'auteur, c'est-à-dire à la fin du deuxième siècle. Bon. Et d'autre part, on a évidemment les citations d'ouvrages, quelquefois, qui auraient été perdues, citées par des auteurs plus tardifs. Alors, on peut reconstituer plus ou moins facilement, selon les cas, tel ou tel traité d'un auteur. Non, mais ordinairement, donc, nous partons de manuscrits qui datent du côté latin, on en a, ou des manuscrits syriaques, on a quelquefois des manuscrits syriaques du 6e siècle, etc., au 5e, 6e siècle. Alors ça, c'est des manuscrits plus anciens. Mais ce n'est pas monnaie courante, si je puis dire.
Jean-Noël Guinaud, quel est l'intérêt de lire les pères aujourd'hui? Est-ce un intérêt intellectuel, un intérêt spirituel? Les deux, vous allez me répondre, voilà, j'en suis sûr.
Voilà, et bien écoutez, c'est un peu la réponse que j'allais faire. Je crois qu'il y a plusieurs types d'intérêts selon les lecteurs aussi, parce que parmi les lecteurs de la collection, bien sûr, il y a des théologiens, du moins on peut l'espérer. Il y a aussi des gens qui cherchent à une nourriture spirituelle. Je pense notamment à tous les écrits du monachisme présents dans la collection et à bien d'autres en dehors même du monachisme. Mais ces textes intéressent aussi l'historien de l'Antiquité tardive, l'historien de l'Église, bien
évidemment.
Nous en avons
quelques-uns dans l'Académie, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
J'imagine, et on en connaît effectivement quelques-uns qui sont des collaborateurs également de la collection. L'historien des idées, les philosophes, n'est-ce pas? Parce que bon, il y a quand même des thèmes, je pense, bien sûr, serait-ce que le thème du mal, n'est-ce pas, est un thème qui est récurrent depuis que l'humanité.
Hélas.
L'humanité. Bien, le problème de l'unité, bon, qui est un problème peut-être interne à l'Église, parce que l'unité dont parlent les pères, c'est avec Cyprien de Carthage, puisque c'est le 500e volume, c'est un problème sans cesse également remis d'actualité. Donc les centres d'intérêt sont multiples. Bien sûr, il y a aussi l'intérêt pour le philologue, celui qui étudie la langue grecque, celui qui étudie la langue latine à un moment de son développement.
Est-ce que ça a un intérêt aussi, j'allais dire, extrêmement contemporain de rapprochement? Étant donné qu'il y a des pères d'Occident et des pères d'Orient, grosso modo, est-ce que ça peut faire aller dans le sens d'un rapprochement des églises actuelles entre les églises d'Occident et les églises d'Orient, dont on le sait que le christianisme est encore divisé?
C'est effectivement un des souhaits, j'allais dire, que faisaient les fondateurs de la collection.
Ils mieux avaient, se connaître, c'est se rapprocher.
Voilà. Ils avaient pensé à cette idée d'écuménisme grâce justement à la fréquentation des sources communes. Car c'est l'intérêt de la collection Sources chrétiennes que de proposer des textes qui sont antérieurs à toutes les grandes divisions.
Bien
donc
sûr.
C'est là non seulement un patrimoine culturel de l'humanité, mais c'est aussi un patrimoine culturel et spirituel de toutes les églises chrétiennes. Et cela, évidemment, est important pour la recherche de l'unité des églises dans leur diversité, justement, dont témoignent les écrits des pères. Hein, on disait la langue grecque, la langue syriaque, la langue arménienne, etc. Les liturgies qui sont différentes. Hein. Bien sûr, il y aura la liturgie romaine du côté occidental qui va s'imposer, mais à l'intérieur même de la liturgie romaine, et nous en savons quelque chose à Lyon, puisque Lyon avait une liturgie particulière,
des Gaules, bien sûr.
Et bien, il y a, au sein de l'unité, il y a une nécessaire diversité, parce qu'il n'y a pas d'unité sans diversité. Et là, voilà.
L'un ne va pas sans l'autre. Alors, ouais. Jean-Noël Guinaud, pour terminer cette émission, l'année 2006 a vu plusieurs manifestations importantes autour de cette collection Source chrétienne. Donc, la parution du 500e volume, donc c'est un traité de Cyprien de Carthage sur l'unité de l'Église. Déjà, au 3e siècle, ça allait mal, l'unité de l'Église, si je comprends bien.
Oui, ça n'a peut-être pas même attendu le 3e siècle. Il y a toujours eu des problèmes. Voyez. Déjà à l'époque, Irénée discute avec le pape de l'époque qui a voulu imposer aux églises d'Orient, enfin d'Asie mineure, une date de Pâques, etc. En disant, mais attendez, ils ont une autre tradition. Eh bien, on peut peut-être la respecter, même si on tend à fêter Pâques ensemble, parce que c'est un symbole de l'unité, que la fête de Pâques et de la résurrection. Bon, on sait qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore parvenu.
Pas tout à fait. Bon. Vous avez fait un retirage d'une 60aine de volumes qui manquaient dans la collection parce qu'ils étaient épuisés. Vous allez lancer une version en russe et en grec, car il ne faut pas oublier effectivement que les orthodoxes russes aussi appartiennent à cette tradition, n'est-ce pas ? Je suppose que c'est pour cela que les Russes s'y intéressent.
Bien sûr, et j'allais dire qu'ils ont même été un peu précédés. Les Français en ce domaine, puisqu'il y avait la volonté avant la révolution d'octobre qui a interrompu cette réflexion avec le concile de Moscou qui avait précédé, cette idée qu'il fallait aussi faire un retour au Père pour justement renouveler peut-être la pensée théologique et spirituelle. Ils ne se sont jamais complètement coupés non plus de leurs racines, mais enfin, il était besoin de les réactiver. Et effectivement, il y a ce projet, on verra ce que cela donne, de publier un certain nombre de volumes de la collection de sources chrétiennes en russe. Cela nous a été demandé par les représentants de l'Église russe, avec la venue notamment du métropolite Cyril de Smolensk.
Il y aura aussi dans les manifestations des colloques consacrés à nos cardinaux de Lubac et Danielou, et la réédition, ou l'édition plutôt, je crois, des carnets spirituels d'Henri René Maroux, dont je voudrais seulement dire que lui n'est ni jésuite ni dominicain, mais que c'est un historien universitaire, qu'il était membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, et que nous ferons certainement une émission consacrée à Henri Irénée Maroux à l'occasion de cette édition de ses carnets spirituels.
Ça y est, elle est sortie.
Elle est sortie, on va pouvoir faire une émission, tant mieux. Jean-Noël Guinaud, pour conclure, si vous aviez un conseil à donner à un auditeur de Canal Académie pour qu'il entre dans cette collection Sources chrétiennes, quel livre recommanderiez-vous ?
Alors, vous me dites quel livre au pluriel, parce que...
C'était au singulier, on n'en est qu'un à la fois.
S'il aime l'histoire, je dirais de commencer par Eusèbe de Césarée et l'histoire ecclésiastique, parce qu'en même temps, ça lui fera connaître bon nombre de pères dont il cite les écrits et que nous ne connaissons que quelquefois grâce à lui. Maintenant, il y aurait beaucoup d'autres choses. Si on va en Orient faire un pèlerinage, eh bien, il faut emporter le journal de voyage d'Égérie, cette pèlerine qui au
4e siècle.
Femmes perdent l'Église, si je puis dire, et sont même les best-sellers de la collection.
Ah bon.
Voilà, Égérie, journal de voyage. Elle s'est rendue depuis le sud-ouest de la France, si on est chauvin, depuis de l'autre côté des Pyrénées, si on l'est un peu moins, à Jérusalem, et elle est arrivée à Jérusalem au moment des fêtes de Pâques, et elle décrit, et c'est intéressant aussi pour l'archéologie, la basilique constantinienne, etc., tout ce qui a disparu aujourd'hui sous d'autres constructions.
Muni de ces deux ouvrages, grâce à Jean-Noël Guinaud, nous allons espérer que de nombreux auditeurs pourront se plonger dans la collection des textes patristiques, collection qui s'intitule Sources chrétiennes, qui est publiée aux éditions du CERF, et sur le site de Canal Académie, vous trouverez bien sûr toutes les indications et tous les liens internet qui vous permettront d'approfondir cette question. Merci Jean-Noël Guinaud.
Je vous remercie, madame.
À bientôt.